Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Nous étudions le livre d'Éphésiens et nous passons de merveilleux moments à le faire. Et nous sommes arrivés au chapitre 5, au verset 18, dans notre étude de la marche digne du croyant. Nous nous sommes arrêtés pour une brève digression au vu du nombre de personnes ayant posé des questions au sujet de la consommation de vin. Au verset 18, nous lisons « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Or, nous l'avons étudié dans le contexte, mais il soulevait la question. Nous savons que nous ne devons pas nous enivrer. Nous savons que la Bible interdit d'être ivre, que c'est un péché, que cela fait partie de notre vie passée. Les paroles de Pierre nous reviennent. C'est assez, en effet, d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens. Puis il continue en parlant de la vie de débauche, de convoitise, d'ivrognerie, des orgies, des beuveries et de l'idolâtrie haïssable. Nous savons que tout cela fait partie de l'ancienne vie. Nous savons que l'ivrognerie est défendue, et nous savons que nous devons être remplis de l'esprit. Mais la question qui surgit est celle-ci. Nous sommes d'accord que l'ivresse est un péché. Mais qu'en est-il du simple fait de boire du vin? Quelle doit être la position du chrétien à l'égard des boissons alcoolisées? Et puisque c'est un problème majeur aujourd'hui et un sujet de discussion si courant, nous avons digressé du texte lui-même pour parler de ce sujet. Un chrétien devrait-il boire ou qu'est-ce que la Bible dit à propos du chrétien et des boissons alcoolisées? Donc, vous vous souvenez que nous avons essayé de partager avec vous la dernière fois quelques principes que nous devons utiliser comme point de contrôle dans cette discussion. La Bible ne dit pas que l'on ne doit pas boire du vin. Je vous ai dit la dernière fois que si cela avait été le cas, je vous aurais lu le verset et nous serions partis. Elle ne dit pas cela. Donc, il nous faut trouver d'autres principes pour déterminer si boire est bien ou mal, et, selon le cas, alors quand oui et quand non, etc. Un chrétien devrait-il boire de l'alcool? C'est un sujet important. Donc, si la parole de Dieu a quelque chose à dire là-dessus, alors il y a un auditoire étendu qui devrait écouter. Nous vous avons dit qu'il y aurait 8 principes ou points de contrôle que nous devons passer en revue pour trouver une réponse. Nous avons vu les 2 premiers la dernière fois. Laissez-moi vous les rappeler. La première question était « Est-ce la même chose ? » C'est-à-dire, le vin d'aujourd'hui est-il le même que celui qui était bu au temps biblique ? La raison de traiter cette question est parce que l'on dit invariablement, c'est-à-dire les chrétiens qui boivent de l'alcool ou du vin, que l'on buvait au temps biblique, donc s'ils le faisaient dans l'Ancien et le Nouveau Testament, alors c'est certainement permis aujourd'hui. Donc la question est la suivante. Est-ce que la boisson des temps bibliques est la même chose qu'aujourd'hui ? Le produit était-il le même ? Le vin était-il le même ? Nous avons parlé de cela en détail dans le dernier message, et nous avons trouvé que la réponse est non. Le vin consommé au temps biblique n'était pas le même que le vin titrant de 9 à 11% d'alcool que l'on boit chez nous de nos jours. Nous vous avons fait part qu'il y avait en fait 3 sortes de vin. Il y avait le glaucos, le mot grec glaucos, qui était le vin nouveau, le vin frais. Le terme de l'Ancien Testament était tyrosh, et il aurait été proche du jus de raisin. Bien sûr, il pouvait fermenter très rapidement, et ainsi causer l'ivresse, donc il était mélangé avec de l'eau. Et la dilution la plus faible aurait été de 3 parts d'eau pour 1 part de vin, réduisant le taux d'alcool à un pourcentage très bas, quasiment négligeable, au point qu'il n'aurait même pas été classé dans les boissons alcoolisées. Et il aurait fallu traîner à boire sans arrêt au point d'éclater avant d'être saoul. Ensuite, il y avait oinos. Oinos, c'est le mot le plus simple pour dire vin en général, sous sa forme liquide. Nous avons vu que le vin était toujours dilué à l'eau. Dans le Nouveau Testament, le vin habituel, qui avait séjourné longtemps dans un grand récipient, était ensuite mélangé dans des proportions allant de 15 à 10 volumes d'eau pour 1 volume de vin, jusqu'à 3 pour 1, de manière à ne plus présenter de contenu alcoolique et de ne plus pouvoir enivrer. Donc, vous aviez le vin frais, qui était aussi mélangé à de l'eau, vous aviez le vin fermenté, qui était aussi mélangé à de l'eau, et vous aviez ce vin, que nous avions vu, qui était une pâte épaisse bouillie. On prenait le vin nouveau, on le faisait cuire dans de l'eau, on faisait évaporer toute l'eau, tuant toutes les bactéries. Par conséquent, il ne pouvait plus fermenter. On le gardait dans des outres à vin en pot, et, quand on voulait en boire, on en pressait l'outre, et il en sortait sous forme de pâte épaisse comme du miel. On le mélangeait de nouveau à de l'eau. Pline, l'historien romain, dit que le mélange pouvait aller jusqu'à 20 volumes pour un, à cause de l'épaisseur du concentré, et on le buvait alors. Il n'était donc pas fermenté. Donc le vin de la Bible était soit la pâte de raisin non fermentée mélangée à de l'eau, soit un mélange d'une base liquide et d'eau. Mais le liquide pur que nous connaissons aujourd'hui, titrant de 9 à 11 degrés d'alcool, aurait été classé comme chakar dans l'Ancien Testament, sikera dans le Nouveau, ce qui peut être traduit par liqueur forte. Et nous avons montré que les historiens, les païens et les Écritures, tous considéraient cela comme une boisson barbare. Donc ce vin pur tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec ses 9 à 11 degrés d'alcool, n'était généralement pas consommé par les gens de la Bible. Sans parler des autres spiritueux de notre époque qui vont de 15 à 50 degrés d'alcool. Donc c'était différent. Et il faut le dire, parce que nous ne voulons pas baser ce que nous buvons aujourd'hui sur ce que buvaient les gens de la Bible. Ce n'était pas la même chose. La seconde question que nous avons posée, second point de contrôle, non seulement c'est différent, mais est-ce nécessaire? Nous avons relevé que pour la plupart des gens de l'Ancien Testament, il était nécessaire de boire du vin. Ils avaient peu de choix entre de l'eau, du lait de vache ou de chèvre ou du vin. Il pouvait y avoir d'autres mélanges qu'ils fabriquaient, mais en général, c'était à peu près tout ce qu'il y avait. Et normalement, il fallait bien boire du vin d'une sorte ou d'une autre. Et, comme je le disais, pour l'usage courant, c'était un vin mélangé, à moins de vouloir boire quelque chose de fort pour se saouler, ou comme calmant pour une maladie grave. Mais dans les temps bibliques, on n'avait pas vraiment le choix, ou il était très limité. Aujourd'hui, nous n'avons pas ce problème. Donc nous devrions dire, deuxièmement, est-ce nécessaire? Non, de nos jours, il n'est pas indispensable de boire du vin. Donc cela tombe dans la catégorie des options, dans la catégorie des préférences. Cela tombe dans la catégorie d'un désir. J'ai entendu des gens dire, « Eh bien, j'aime le goût qu'il a. D'accord, c'est une affaire de goût, de préférence ou de désir, mais ce n'est pas une nécessité. » Nous ne ressemblons pas à certaines cultures, et à propos, il peut y avoir des gens dans certaines cultures du monde qui vont entendre ce message, et dans leur situation particulière. Ils peuvent être très limités, n'avoir aucun choix dans certaines circonstances, à certains moments, et cela peut être très différent pour eux. Mais dans notre société, et franchement, pour la plupart des gens dans une majorité du monde, ce n'est pas une nécessité. J'oserais même dire que partout où je suis allé, dans n'importe quelle langue, culture ou climat, on trouve du Coca-Cola. Et en plus du Coca-Cola, même au milieu des pays arabes, il y a des boissons gazeuses. Nous étions une fois au beau milieu de la région des pyramides. Et là, des personnes vendaient diverses boissons gazeuses. Il fallait vérifier dans votre boisson s'il n'y flottait pas quelque chose, mais néanmoins c'était un soda. Donc le vin n'est pas une nécessité aujourd'hui. Nous produisons des boissons sophistiquées, et nous avons la réfrigération. Et de tels moyens permettent d'éviter la fermentation. Donc, nous ne sommes pas dans la même catégorie. Donc, première question, est-ce la même chose? Non. Deuxième question, est-ce nécessaire? Non. Nous arrivons au fait que c'est un choix. Si vous choisissez de boire, c'est parce que vous optez pour cela. C'est un choix. Et des gens diront, « Eh bien, j'ai la liberté en Christ, et je suis libre, tout est permis, comme il est dit dans 1 Corinthiens 6, verset 12, tout est permis. » Je ne suis pas lié, je ne suis pas sous la loi, la nourriture n'est plus sacrée, il n'y a plus de nourriture pure et impure. Actes chapitre 10, Romains chapitre 14. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir peur de la boisson. Ma liberté me laisse cette prérogative. Donc c'est un choix, et je peux choisir de le faire ou ne pas le faire. Alors, laissez-moi vous poser la troisième question. Est-ce le meilleur choix? Est-ce le meilleur choix? Bien des choses sont des choix. Vous savez, la Bible ne vous interdit pas de vous mettre des plantes à la bouche et d'y mettre le feu. La Bible ne dit rien de cela. Si vous voulez vous mettre des herbes à la bouche et les allumer, puis souffler la fumée par le nez, vous avez le droit de le faire. Ce n'est pas interdit par la Bible, bien sûr. Quelqu'un a dit que si Dieu avait voulu que vous fumiez, il vous aurait construit avec une cheminée. Mais cela peut ne pas être vrai. Mais ce n'est pas interdit par la Bible. C'est un choix que vous faites. Et certains vous disent que ce n'est pas le meilleur choix. Vous avez le choix de boire du café ou de ne pas boire du café. Certains pensent que le café est délicieux. Certains pensent que la caféine a un effet néfaste. Et il se peut que ce ne soit pas le meilleur choix, bien que vous ayez la liberté de boire du café, de brûler des plantes dans votre bouche, et aussi de boire du vin, si vous voulez user de cette liberté. Donc, c'est une question de choix. Mais est-ce le meilleur? Examinons cette catégorie un instant. Je voudrais vous présenter une progression de vérité biblique pour vous aider à voir quel est le meilleur choix. D'accord? Revenons à Lévitique, au chapitre 10. Je crois que vous allez trouver cela fascinant. Dans l'économie de Dieu en Israël, il y avait une séparation parmi le peuple. Il y avait des normes supérieures pour les personnes à plus grande responsabilité. Je ne sais pas si vous le saviez vraiment, mais c'est vrai. On peut l'illustrer de multiples façons. Prenez par exemple le sacrifice pour le péché. Vous vous rappelez que certains devaient venir, en fait tous devaient venir faire des sacrifices pour le péché. Mais si c'était pour le péché de la communauté, ce devait être un bœuf. S'il s'agissait du péché d'un souverain sacrificateur, c'était un bœuf. Si c'était pour le péché d'un dirigeant, c'était un bouc. Si c'était pour le péché d'un individu laïque, cela pouvait être deux tourterelles, deux jeunes pigeons. Ce pouvait être même de la farine. Autrement dit, il semble que plus on s'élevait, plus la demande du sacrifice était élevée. Plus le rang dans la théocratie était élevé, plus l'offrande était chère. Et puisque toute l'assemblée était une nation de prêtres, il fallait qu'ils aient une offrande équivalente au souverain sacrificateur. Celui-ci devait donner l'offrande la plus importante, un bœuf. En dessous de lui, les dirigeants donnaient une chèvre. En dessous, le peuple pouvait donner des tourterelles, ou l'équivalent. Parce que plus le rang était élevé, plus la responsabilité était importante et la culpabilité était grave. Voyez-vous, c'est ce qui est dit dans Jacques 3 au verset 1. Ne soyez pas beaucoup enseignés, car ils ont une plus grande condamnation. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit « De celui à qui on a beaucoup donné, il est beaucoup demandé. » Plus le rang dans la théocratie est haut, plus grande est la responsabilité et plus grave est le péché. Le péché entraîne une plus grande culpabilité si la position est élevée. Parce que si vous péchez, quand vous avez un rang élevé, cela peut avoir des conséquences qui vont loin, n'est-ce pas? Un péché dans le cœur du souverain sacrificateur ou le chef ou le roi provoquait un terrible écho parmi le peuple qui allait loin. Et c'est ce qui se passe en termes des exigences de Dieu. Or, Dieu avait institué des normes pour son peuple. Mais à l'époque de l'Ancien Testament, il avait appelé certaines personnes à s'élever au-dessus de ces normes en disant « Je vous prescris des normes plus hautes ». Et la première illustration de cela est dans Lévitique 10, au verset 8. Et les exigences de Dieu pour la prêtrise, ici, sont très intéressantes. Il dit à Aaron, qui était souverain sacrificateur, « Tu ne boiras ni vin, ni boisson alcoolisée, toi, ainsi que tes fils, lorsque vous entrerez dans la tente de la rencontre, sinon vous mourrez. » Voilà une exigence plutôt forte. Ni vin, ni boisson enivrante. Voyez-vous ce qui se passe ici. Alors que le peuple buvait du vin, qui était mélangé à de l'eau, ou la pâte qui sortait des outres en pot, là où les gens buvaient cela, et certains débauchés buvaient même des liqueurs fortes. Les prêtres étaient appelés plus haut, vous voyez? Vous ferez ceci quand vous entrerez dans la tente de la rencontre, sinon vous mourrez. Ce sera une prescription perpétuelle pour vous, au fil des générations, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Autrement dit, vous êtes appelé à une séparation, à une consécration, à un niveau plus élevé de piété, à un niveau plus élevé d'engagement envers Dieu. Certains commentateurs disent qu'il fallait faire cela seulement quand ils servaient dans le tabernacle, seulement quand ils servaient le Seigneur, et certains disent que c'était toute leur vie. Eh bien, dans les deux cas, le fait est que lorsqu'ils servaient le Seigneur, quand ils étaient appelés à servir le Seigneur, ils devaient être des abstinents absolus. Des abstinents absolus. Pourquoi? De peur que leur discernement ou leur fonction sacerdotale ne puissent être pour le moins du monde diminués par la prise d'une quelconque boisson alcoolique. Dieu voulait que leur esprit soit clair et pur, donc il leur était interdit de le faire, comme si Dieu les élevait à une norme plus haute, un niveau plus élevé au-dessus du peuple. Proverbe 31, dernier chapitre du livre, verset 4. Et l'on voit ici le même ordre, non seulement pour les prêtres, mais aussi pour les rois et les princes. verset 4 de Proverbe 31. Il est dit « Ce n'est pas au roi le muel, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des boissons fortes. Pourquoi ? En buvant, il pourrait oublier les lois et porter atteinte à la cause des plus malheureux. » Autrement dit, non seulement les prêtres étaient appelés à prendre une position d'abstinence, mais c'était aussi le cas pour les rois et les princes. Dieu ne voulait pas que leur capacité de jugement soit diminuée. Dieu ne voulait pas que leurs pensées soient fumeuses ou embrumées. Dieu voulait qu'ils soient à part. Dieu les voulait consacrés et différents du reste du peuple. Et le verset 6 dit que si vous donniez une boisson forte à quelqu'un, ce ne doit être qu'à quelqu'un qui est prêt de mourir. Comme pour dire que si quelqu'un d'autre en buvait, c'était barbare. Une boisson forte, qui était alors le vin, pur, non mélangé, ne devrait être donnée qu'à quelqu'un en train de mourir, c'est-à-dire comme un sédatif pour quelqu'un qui souffrait à la mort. Ainsi, le vin ordinaire mélangé devait être donné à ceux qui ont le cœur lourd, qu'ils boivent pour oublier leur pauvreté et ne plus se souvenir de leur misère. Que la chaleur et la joie qui viennent du vin soient pour ceux qui ont de gros problèmes, ou que le vin soit fort pour ceux qui meurent, mais pour les rois et les princes, ainsi que pour les prêtres. Si nous pouvons ajouter le Lévitique à cette pensée, qu'il soit de complet abstinent. Donc, il y avait un niveau de consécration qui était plus exigeant pour les chefs. Maintenant, regardons un nombre au chapitre 6, qui va vous montrer que non seulement les rois, les princes et les prêtres, tout comme le souverain sacrificateur, devaient suivre ces règles, mais il y avait aussi certaines personnes de l'Assemblée d'Israël qui choisissaient ces normes plus élevées. N'importe qui pouvait adhérer à ces strictes exigences, la norme la plus élevée. Et souvenez-vous que dans Nombre, chapitre 6, verset 1, l'Éternel parla à Moïse en disant « Transmets ces instructions aux Israélites. Lorsqu'un homme ou une femme se consacrera tout particulièrement à l'Éternel en faisant un vœu de Naziréa. » Arrêtons-nous ici un instant. N'importe qui dans l'Assemblée d'Israël pouvait dire « Je veux consacrer toute ma vie à Dieu. Je veux vouer toute ma vie à l'Éternel. Je veux me mettre à part pour Dieu. » Je veux dire non aux choses de cette vie, et oui aux choses de Dieu. Je veux être différent. Je veux être consacré. Alors Dieu a dit, « J'institue ici l'acte de consécration le plus élevé, et cela s'appelle le Naziréa, qui vient du mot nazir, et nazir veut dire celui qui est consacré. Un Naziréen est quelqu'un qui est consacré. Donc lorsqu'un Juif voulait se mettre à part et s'engager, il faisait le vœu de Naziréa. Le Naziréen faisait vœu de séparation. À la fin du verset 2, il est dit « Pour se consacrer particulièrement à l'Éternel. » C'était un vœu de sainteté, un vœu de consécration, un vœu de mise à part. Et quelle serait sa caractéristique ? Verset 3 « Il s'abstiendra de vin et de boissons alcoolisées. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson alcoolisée. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins. Et il ne mangera point de raisin, ni frais ni sec. Pendant toute la période de sa consécration, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant toute la durée de son vœu de Naziréa, le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Donc c'était le vœu du Naziréa. Ne pas se couper les cheveux et ne pas toucher de vin. Le niveau maximum de consécration impliquait l'abstinence. C'était comme s'élever à un niveau supérieur et s'identifier avec les prêtres, les rois et les princes, et tous ceux qui étaient mis à part pour Dieu. On pouvait faire durer le vœu 30 jours, 60 jours, 90 jours, ou même la vie entière. Et il y a 3 personnes dans la Bible qui furent naziréens toute leur vie, Samuel, Samson et Jean-Baptiste. Et ce qui est fascinant, c'est que non seulement ils furent naziréens à vie, mais dans le cas de la femme de Manoa, la mère de Samson. L'ange est venu à elle et lui a dit « Tu ne devras boire ni vin ni liqueur forte, de même que l'enfant que tu portes. » Dans Juges au chapitre 13 et au verset 4, nous voyons la déclaration qui concerne la mère de Samson. « Comme cela, vous saurez où cela se trouve. Maintenant, fais bien attention de ne boire ni vin ni liqueur forte et de ne rien manger d'impur, car tu vas devenir enceinte. » Puis au verset 7, la dernière partie du verset 7. « Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Maintenant, en allant dans le Nouveau Testament, nous trouvons aussi cela dans Luc chapitre 1 et verset 15. Très intéressant. Zacharie et Élisabeth sont informés par l'ange qu'ils vont avoir un fils, au verset 13, qui sera pour eux un grand sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Au verset 15 de Luc 1, il est dit « Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » Or, c'est le plus grand homme qui ait jamais vécu. Jésus le dit dans Matthieu 11, verset 11, que l'homme le plus grand qui a jamais vécu est Jean-Baptiste. Le plus grand homme qui a jamais vécu était un abstinent toute sa vie. Vous voyez, il y a un niveau plus élevé que celui du peuple ordinaire, auquel Dieu a élevé certaines personnes, le plus grand homme qui ait jamais vécu. Ainsi, pour des périodes particulières, il y a eu des prêtres, ou des rois, ou des princes, ou de grands juges comme Samson, ou de grands hommes comme Samuel, ou de grands hommes de Dieu comme le prophète Jean-Baptiste, qui ont été élevés à un niveau spécial de consécration, à un niveau plus élevé de piété, un niveau de vœux plus élevé que celui du peuple ordinaire. Et, soit dit en passant, il n'y avait pas que ces chefs qui avaient cela en commun, n'importe qui pouvait le faire. Et il y a eu beaucoup de Naziréens en Israël. Je ne pense pas que nous le réalisons, mais nous ne savons pas combien ils étaient, sauf qu'ils étaient nombreux. Par exemple, dans Amos au chapitre 12, il est dit au verset 11 que Dieu dit « J'ai fait surgir parmi vos fils des prophètes et parmi vos jeunes hommes des Naziréens. N'est-ce pas le cas, Israélite ? Déclare l'Éternel. » Autrement dit, Dieu dit « J'ai suscité des prophètes et j'ai aussi suscité des Naziréens. J'ai suscité certains pour être à part, certains qui ont fait un vœu plus élevé. Certains qui avaient un sens plus élevé des valeurs ou des normes de vie plus élevées parmi vous. » Et bien entendu, il continue en disant qu'on les a corrompus. Amos dit au peuple, « Et vous avez fait boire du vin aux Naziréens et aux prophètes, vous avez donné cet ordre, ne prophétisez pas. Ils ont profané ces Naziréens, ceux que Dieu avait mis à part et consacrés pour lui-même par l'abstinence totale. Le peuple les avait profanés en leur donnant du vin. » Or, il me semble que beaucoup de ceux dont parle Amos 2, que Dieu avait établi comme Naziréens, l'avaient été à vie, et c'était cela que le reste du peuple avait profané, ou carrément forcé, ou induit à la désobéissance. Ainsi, Dieu a institué ce vœu de consécration, et de nombreuses personnes s'y engageaient. Dieu avait établi ce vœu élevé, et il a suscité des personnes pour vivre à ce niveau, les prêtres, les rois, les chefs et les prophètes et juges spéciaux, et des hommes spéciaux comme Samson, et d'autres que Dieu a élevés à ce niveau. Et pour une raison mystérieuse, le peuple a pensé qu'il devait être abaissé à son niveau. Vous savez, les gens font de drôles de choses. Au lieu d'atteindre le niveau le plus élevé, ils veulent faire dégringoler ceux qui y sont jusqu'à leur propre niveau. C'est ce qui est arrivé en Israël. Et Jérémie, le cher homme, quand il a vu ce qui se passait, il a été l'instrument de Dieu pour parler sur ce sujet. Et il a dit à Judas, « Tu es désobéissant, Judas. » Au chapitre 35 de Jérémie, il dit « Tu es désobéissant. » Que je vous montre un contraste de cela. Au chapitre 35 de Jérémie, il dit « Vous souvenez-vous des Récabites ? Les Récabites, fils de Jonadab, vous souvenez-vous que Jonadab a dit aux Récabites « Vous ne boirez ni vin, ni boisson forte, vos fils, vos filles, vos épouses, ni personne de votre famille pour toujours. » Autrement dit, toute une famille a fait vœu d'abstinence. Toute une famille est montée au plus haut niveau. Et Dieu a dit, « Et quand j'ai même mis des coupes pleines de vin devant les fils des Récabites, ils ne les ont pas bu. » Jérémie 35, versets 2 à 6. Je le cite, « J'ai mis devant eux des coupes de vin, devant eux, et ils ne les ont pas bu. » Et il continue dans tout le chapitre, puis à la fin il résume en disant, « Voyez toutes les tentations de boire du vin, et pas une seule fois. » Ils ont cédé à cette tentation. Mais vous, vous m'avez désobéi. Vous m'avez désobéi. Voilà un groupe de personnes qui ont obéi, et ils contrastaient avec l'Israël désobéissant. Et le point sur lequel ils obéissaient était l'abstinence. Ils avaient adopté ce niveau, et Dieu les a pris en exemple. Maintenant vous dites, en quoi cela me concerne-t-il? Eh bien, cela indique beaucoup de choses. 2 Corinthiens 6, verset 17. Sortez du milieu d'eux. « Et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. » 2 Corinthiens 7, verset 1. « Purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit, et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Nous sommes appelés au niveau supérieur. Nous sommes tous élevés pour faire les choix les meilleurs. Quand vous arrivez au Nouveau Testament, mes bien-aimés, je ne crois pas que la norme change. Je ne le crois pas vraiment. Je ne crois pas qu'elle change. Je ne pense pas que dans le Nouveau Testament, Dieu ait diminué ses exigences. Écoutez, si un prêtre devait avoir les idées claires en tout temps et ne jamais se mettre dans une situation de tentation, que ce soit vrai pour un roi ou vrai pour un prince, si c'était vrai pour un juge, si c'était vrai pour un grand homme comme Samuel, si c'était vrai pour un prophète comme Jean-Baptiste, il y aurait une norme plus basse pour ceux qui dirigent l'Église de Jésus-Christ, qu'il a rachetée au prix de son propre sang précieux. Exigerait-il moins? Eh bien, ce que je dis, c'est ceci. Il y a une norme élevée dans la Bible pour ceux qui ont une responsabilité spirituelle et qui sont dirigeants. Et ceci est pour moi le meilleur choix. Vous savez, si nous sommes tous des sacrificateurs, si nous sommes tous des personnes mises à part pour Dieu et consacrées par le Saint-Esprit, nous tous, Romains 12, verset 1, devons présenter nos corps comme un sacrifice vivant. Si tous nous devons être comme des sacrifiés brûlés par le feu, nous offrant par une consécration entière, comme un acte d'adoration naturelle et normale, alors il me semble que nous pourrions prendre en considération le choix le meilleur et le plus élevé. Nous demandons donc, est-ce la même chose? Non. Est-ce nécessaire? Non. Est-ce le meilleur choix? Peut-être que non. Peut-être que le meilleur choix est de se tenir avec ceux qui se sont mis à part dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, et dans l'Église d'aujourd'hui, avec ceux qui nous guident. Posons la quatrième question. Si nous allons boire des boissons alcoolisées, nous devrions considérer la question. Est-ce que l'on s'y habitue? Provoque-t-elle l'accoutumance? En effet, c'est une question difficile parce qu'on s'habitue à beaucoup de choses. Vous direz, j'enfile ma chaussette gauche chaque jour avant la droite. C'est une habitude parce que je le fais depuis si longtemps, mais cela ne me fait aucun mal. Ici, quand on parle d'une habitude qui se prend, cela implique une habitude qui crée une réaction négative. Cela nous emmène à 1 Corinthiens 6 au verset 12. 1 Corinthiens 6, verset 12. Je l'ai cité en partie il y a un moment, mais il est dit, tout m'est permis. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Il y a des choses que je pourrais faire, mais elles me piègent, elles me tirent en bas. Tout est permis, mais certaines choses me gêneront, elles me piégeront. Et une des choses que l'alcool fait, bien qu'on puisse dire « je suis libre, j'ai la liberté d'en prendre », nous pouvons découvrir qu'en usant de cette liberté, elle devient un piège, parce que la fin du verset dit « tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas quoi ? Je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. » L'alcool a cette propriété de vous piéger, mais encore plus. Il vous met sous la domination d'une autre influence. Il provoque une dépendance, une accoutumance qui peut devenir une domination sur vos propres capacités de décider et de réfléchir. Et je suppose que j'arrive à ce problème. Je peux éviter de pécher, d'accord? Et je pense que vous aussi, vraiment. Si je sais que quelque chose est un péché, je veux l'éviter de tout mon cœur. Mais je vais plus loin et je vous dis que je veux aussi éviter ces choses qui peuvent potentiellement amener au péché. Je pense qu'il en va de même avec la nourriture. La gloutonnerie est un péché, et si je ne sais pas gérer la nourriture, je peux avoir de nombreux problèmes. Or, je n'ai pas vraiment le choix quand il s'agit de manger, je dois manger. Ce n'est pas comme boire du vin dans ce sens-là, mais vous savez ce que j'aime? J'aime varier ma nourriture, et parfois m'abstenir totalement de nourriture d'une manière régulière, juste de manière à maintenir le contrôle sur ce que je mange, et pour que la nourriture ne me contrôle pas. Et je pense que c'est une chose fondamentale dans la vie chrétienne. Nous ne voulons jamais être sous le contrôle ou la puissance de quelque chose qui sont des influences impies, des choses qui peuvent nous faire tomber dans le péché. Donc, je dirais que la ligne la plus sûre à tenir est d'éviter le péché et aussi d'éviter ce qui peut potentiellement amener au péché. Les gens de l'Institut d'études sur l'alcool disaient que l'alcool provoque l'accoutumance parce qu'il peut attaquer le cerveau et créer cette dépendance. Et nous savons tous ce que c'est. Nous savons tous ce que c'est, mais certaines personnes peuvent boire sans que cela devienne une addiction. Mais le potentiel est là. Il peut devenir une addiction. Donc nous devons répondre à la question. Est-ce addictif? Oui, ça peut l'être. Il peut provoquer l'accoutumance. Il peut provoquer la dépendance. Et il peut nous amener sous son pouvoir de manière que nous ferons, dirons et penserons des choses qui ne seront pas nos propres pensées, mais seront induites en nous par la puissance et la présence de l'alcool. Passons à la cinquième question. Si c'est donc addictif, est-ce aussi potentiellement destructeur? Si c'est addictif ou potentiellement addictif, peut-il devenir destructeur? Et ici, la réponse est oui. J'ai eu en main une lettre d'une chère jeune femme de notre Église. Je ne vais pas prendre le temps de vous la lire en entier ce matin, mais je dirai du contenu de cette lettre qu'une petite pensée brièvement. Dimanche dernier, au cours du culte sur Éphésiens 5, verset 18, j'ai été poussé à partager quelque chose avec vous. Ma mère est décédée le 15 août 1978 à l'hôpital général aux soins intensifs à cause d'un arrêt cardiaque et d'une insuffisance respiratoire. Elle avait une cirrhose du foie, de l'hypertension, des reins endommagés et, selon mon propre diagnostic, un cœur brisé. Inutile de dire que ma mère était alcoolique. Elle avait été alcoolique depuis un peu avant ses 30 ans et jusqu'à sa mort à l'âge de 66 ans. Lorsque j'ai consacré ma vie à Christ, très naturellement, j'ai été préoccupé par le salut de ma mère. J'ai partagé l'Évangile avec elle, souvent, et elle disait que Dieu ne pouvait pas l'aider, parce qu'elle était quelqu'un d'épouvantable. Je lui disais que Dieu l'aimait, et que peu importait ce qu'elle était ou est maintenant, mais cela lui semblait désespéré. Quand je lui parlais au téléphone, ou autrement, parfois, elle me demandait de prier pour elle. Elle lisait aussi la Bible de temps en temps et recherchait Dieu. Elle passa ses derniers jours dans un vieil hôtel minable de Los Angeles, où on l'a battue une fois et plusieurs fois cambriolée. Un jour, elle a été amenée à l'hôpital pour une crise d'asthme. Quand j'ai appelé l'hôpital, on m'a dit qu'elle était dans le coma. Elle avait eu deux arrêts cardiaques et une crise cardiaque. Alors, dans le coma, il n'y avait aucun moyen de l'atteindre pour Jésus. Alors, j'ai mobilisé tous mes amis ainsi que le groupe de prière d'urgence de l'Église de la Grâce pour prier qu'elle sorte du coma. Elle en est sortie le lendemain. Elle avait un respirateur dans sa bouche pour l'aider à respirer, et une machine enregistrait le rythme cardiaque, et il y avait une sorte de machine pour ses reins. Cela faisait pitié. Je suis resté avec elle et prié la plupart de la journée, et j'ai partagé avec elle l'amour de Dieu et le don du salut. Elle était très agitée et ne semblait pas toujours savoir que j'étais là. Elle continue en décrivant d'autres éléments médicaux. Je lui ai demandé si elle croyait que Jésus était son sauveur et qu'il était mort pour ses péchés, et si oui, qu'elle me serre la main, et elle l'a serrée. Après cela, son cœur s'est mis à battre plus calmement, puis s'est abaissé jusqu'à 94 battements par minute. Et il est resté là autour tout le temps. Ensuite, elle s'est calmée, et deux jours plus tard, le cœur de ma mère s'est arrêté, et elle est morte. L'alcool et la sorte de vie qui va avec, et le fait d'être alcoolique ont été la cause de sa mort. Elle continue plus loin. Il ne fait aucun doute que nous savons cela. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans le cœur de cette chère dame avant sa mort. J'espère qu'elle acquiesçait vraiment par ce serment de main, pas vous, mais vous connaissez les ravages de l'alcool et qu'il est potentiellement destructeur. Mais j'aimerais regarder Éphésiens 5, verset 18, non seulement du point de vue d'un témoignage, mais à partir du texte. Dans Éphésiens 5, verset 18, il y a un petit mot qui est très puissant. « Ne vous enivrez pas de vin. Cela mène à la débauche. » C'est le mot « asotia ». C'est un mot très intéressant et très important. « Asotia ». L'original veut dire « saisissez cela ». L'original veut dire « être expressément, incurablement malade ». Maintenant, lisez le verset comme suit. « Ne vous enivrez pas de vin, ce qui mène à être désespérément, incurablement malade. » Pensez-vous que Dieu sait que l'ivrognerie peut mener à la débauche? Oui, oh oui. Nous pourrions dire que le sens littéral, à l'époque où Paul a écrit, serait ceci. Une personne, asotia, serait quelqu'un qui, par sa manière de vivre, se détruisait. Quelqu'un qui, par sa manière de vivre, se détruisait. L'ivrognerie mène à une maladie incurable, désespérée et à la destruction. C'est là, dans la Bible. À propos, dans Luc 15, verset 13, vous trouvez que ce mot « asotia » est utilisé. Il est dit qu'un jeune homme est allé vers son père en disant « Père, donne-moi tout ce qui me revient. » Et vous vous souvenez qu'il a tout pris, qu'il est parti dans un pays lointain. Et il est dit qu'il s'est mis à vivre une vie de débauche. Vous vous souvenez, une vie de débauche. Dans Luc 15, au verset 13, il y a ce mot « asotia ». Il est débauché. Il s'est engagé dans une vie qui l'a conduit à une maladie incurable et désespérée. Il a mené une vie qui allait le conduire à la destruction, une vie indisciplinée, débauchée. Il ne fait aucun doute que ce mot indique ce que Dieu nous dit. L'ivrognerie mène à la débauche. L'ivrognerie conduit à la destruction. En l'étudiant tout au long de la Bible, vous trouvez cela. Le vin est moqueur, et les boissons fortes sont enivrantes, est-il dit. En Proverbes 4, verset 17, Il est dit que si vous buvez du vin, vous trouverez que la violence l'accompagne. Revenez au livre de la Genèse, et vous verrez que là, où il y a de l'ivrognerie, il y a de l'immoralité. Où il y a de l'ivrognerie, il y a de l'inceste. Revenez à Deutéronome 21, verset 20. Où il y a de l'ivrognerie, où il y a de la gloutonnerie. Où il y a de l'ivrognerie, il y a de la rébellion. Où il y a de l'ivrognerie, il y a de la désobéissance aux parents. Où il y a de l'ivrognerie, il y a une vie dissolue. Voilà où ça mène. Ne vous enivrez pas de vin, car cela mène à une maladie désespérée et incurable. La Bible dit, mes amis, que cela peut mener à la destruction. Je ne sais pas si vous savez ceci, mais un quart de tous les patients admis dans les hôpitaux psychiatriques ont un problème d'alcool. Il réduit simplement l'esprit en charpie, et nous savons que physiquement, il provoque la cirrhose du foie. Un foie congestionné provoque des gonflements. Selon un rapport médical que j'ai lu, il provoque même des varices veineuses de l'œsophage. Les parois des veines amincies se rompent plus facilement quand on avale de la nourriture, causant une hémorragie fatale, de manière que certaines personnes qui meurent de cela décèdent peu après avoir mangé. De plus, vous seriez probablement fort insouciant si vous ne vous souveniez pas que l'alcool non seulement tue ceux qui boivent, mais il tue aussi bien des gens innocents qui se trouvent alentour. Saviez-vous que 41,2% de toutes les morts violentes ont un facteur d'alcool? Près de la moitié des morts violentes, près de la moitié arrivent à cause de l'alcool. Une étude faite dans l'État du Delaware indique que l'alcool figure dans la moitié de nos morts sur les routes. À New York City, une étude menée conjointement par le département de la santé de l'État de New York et l'université de Cornell a révélé que 73% des conducteurs responsables des accidents dans lesquels ils étaient morts avaient bu. 73%. Dans le comté de Westchester, New York, des examens sanguins ont été faits sur 83 conducteurs qui ont été tués dans des accidents n'impliquant qu'une voiture. Les examens ont révélé que 79% de ces conducteurs étaient sous l'influence de liqueurs. L'alcool est mortel. Il conduit à la débauche, à Sotia, la maladie désespérée, incurable. Et le livre des Proverbes en parle répétitivement. Ésaïe, chapitre 28. Je vous lis le verset 7. Il dit « Mais eux aussi, ils titubent. Écoutez, sous l'effet du vin et des liqueurs fortes les égarent. Prêtres et prophètes titubent sous l'effet des liqueurs fortes. Ils sont troublés par le vin. Ils s'égarent à cause des liqueurs fortes. Ils titubent en prophétisant. Ils vacillent pendant leur verdict. Toutes les tables sont pleines de vomissements infects. Il n'y a plus aucune place propre. Alors, qui reste-t-il pour enseigner la connaissance? Qui reste-t-il pour parler pour Dieu? Cela avait corrompu les prêtres. Ils avaient corrompu les prophètes. C'est pour cela, voyez-vous, que Dieu a élevé tous ceux qu'il voulait pour guide au-dessus de cela. C'est pour cela qu'il a élevé ces gens, parce que l'alcool a le potentiel de dégrader un groupe de leaders en en faisant des baveurs dégoûtants et vomissant assis autour d'une table. Et donc Dieu l'a aboli. Dans Joël, Dieu a retiré le droit de boire. Joël 1, verset 5. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous, buveurs de vin, lamentez-vous parce que le vin nouveau vous est enlevé de la bouche. Dieu dit, plus de boisson pour vous. Pourquoi? Les sauterelles sont venues. Et les sauterelles ont détruit les récoltes. Et il dit, vous ne prendrez plus de boisson tant que vous vivrez. L'iniquité d'Éphraïm, dans Osée, chapitre 7, était liée au vin. Amos écrit à plusieurs endroits, au chapitre 2, au chapitre 4, au chapitre 6, au sujet de la terrible débauche qui vient de l'ivrognerie et du vin. Nous savons que c'est ce qu'il peut provoquer. Ainsi, la question se pose que, si cela peut arriver, pourquoi mettons-nous devant nous quelque chose qui peut amener cela si nous n'y sommes pas obligés? Habacuc, chapitre 2, verset 15, il est écrit « Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre pour l'enivrer, afin de voir sa nudité. Tu t'es rassasié de mépris plus que de gloire. Bois aussi toi-même, et découvre-toi. Tu boiras la coupe de la main droite de l'Éternel, et la honte souillera ta gloire. Oh là, quel verset! Si vous faites cela, Dieu vomira sur vous. Dieu vous fera boire sa coupe de jugement. » Vous faites boire votre prochain. Et écoutez, Dieu vomira sur vous. C'est très sérieux. Vous voyez, Dieu sait ce qui en résulte. Si vous êtes allé dans des quartiers de clochards, vous avez vu ces pauvres pathétiques qui y errent. Vous savez ce qui s'y passe à coups de poignard. Et ces gens sans défense, qui ne pouvaient pas du tout se défendre contre les attaques, ou du moins, n'avaient pas assez de gens pour le faire. Vous avez vu ce genre de vie. Dans mes jeunes années, j'ai grandi et prêché dans des missions. Une mission après l'autre, dans ces coins, là. Et je sais à quoi ça ressemble, tout comme vous. Vous savez où ça mène. Je dois me poser la question. Si un tel produit, quel qu'il soit, est à ce point potentiellement destructeur, est-il vraiment sage pour moi de l'utiliser comme n'importe quel amusement? Alors, est-ce la même chose? Est-ce nécessaire? Est-ce addictif? Est-ce potentiellement destructeur? Numéro 6. Nous allons passer sur les trois derniers vraiment rapidement. Est-ce que cela offense d'autres chrétiens? C'est un point de contrôle. Vous devez vous demander ceci. Si je bois, est-ce que cela va heurter d'autres chrétiens? Vous dites, je suis libre. Je ne veux pas tomber dans l'esclavage du légalisme. Je suis libre de faire ce que je veux et je peux gérer. Un homme m'a dit la semaine dernière, je peux gérer. Je ne vois pas ce qui vous trouble tant. J'aime seulement un petit coup de scotch le matin et un petit coup le soir et je le maîtrise. Cela n'a aucun effet sur moi. Je lui ai dit, très bien, peut-être que vous le gérez. Bien, peut-être que vous pouvez. Mais peut-être que quelqu'un qui vous voit faire ne peut pas le gérer. Maintenant, écoutez ceci. Dans 1 Corinthiens, chapitre 8 et verset 9, se trouve un principe général et qui devient très spécifique dans Romains 14. Mais dans 1 Corinthiens, chapitre 8 et verset 9, il est dit, « Veillez toutefois à ce que votre liberté ne devienne pas un obstacle pour les faibles. » Vous savez, des parents sont venus vers moi en disant, « Vous savez, nous avions l'habitude de boire, et nous avons bu jusqu'à l'adolescence de nos enfants. Puis nous avons arrêté, parce que nous avons vu qu'ils avaient suivi notre exemple et commencé à boire, et ils ne l'ont pas supporté. » Vous savez, beaucoup de parents ont vu arriver cela. Quand la police les appelle en disant, « Nous avons attrapé votre fils, là-bas. Il était saoul. Nous l'avons trouvé étendu dans la rue. » Vous voyez, vous pouvez avoir la liberté. Vous pouvez user de modération. Vous pouvez avoir la maturité et la force. Mais il se peut que vous donniez un exemple à quelqu'un qui ne peut pas tenir l'alcool. En outre, au temps de Paul, l'ivrognerie était liée à la religion païenne, vous vous souvenez, Bacchus et Dionysos, et tout ce que nous avons vu la dernière fois. L'ivrognerie allait avec la religion païenne, et quand les gens devenaient chrétiens, tout comme ils ne voulaient plus manger de la viande offerte aux idoles, nombre d'entre eux ne voulaient plus rien avoir à faire avec la boisson non plus. Et alors, quand ils devenaient chrétiens, une des choses qu'ils abandonnaient était la boisson. Ils devenaient totalement abstinents. Et quand des chrétiens venaient leur dire « Nous avons la liberté de boire et buvez du vin », cela heurtait profondément ces gens qui, durant toute leur vie de paganisme, avaient associé la boisson avec leur cérémonie vouée à Satan. Allons maintenant à Romains 14, et je vais vous montrer cela, car c'est précisément le sujet dont parle Paul. Voilà des gens qui, à Rome, avaient été exposés à toute cette soûlerie malsaine en rapport avec le culte païen. Et maintenant ils étaient chrétiens, et certains de ces autres chrétiens, peut-être des juifs messianiques, n'avaient pas cet arrière-plan, et n'avaient pas de problème de boisson. Mais voilà, certains de ces anciens païens, maintenant chrétiens, avaient été associés à l'ivrognerie et la débauche, et l'immoralité, et la gloutonnerie, et le mal, et toute la terrible dissipation qui allait avec. Et quand ils sont devenus chrétiens, alors vraiment, ils ne voulaient plus rien avoir à faire avec cela, et des chrétiens venaient alors vers eux en disant « Allez, avale ça, ce n'est pas une affaire », ce qui les offensait profondément. Et ce n'était pas à cause d'eux qu'ils n'avaient pas cette liberté, c'était parce que c'était leur ancienne vie. Et maintenant, dans la nouvelle, les choses devaient être différentes, et des chrétiens qui prenaient la liberté de boire devant ces chrétiens qui ne pouvaient pas se sentir libres de le faire à cause de leur passé, étaient très blessants envers ses frères, en les faisant trébucher. Cela les blessait, les chagrinait, et c'est ainsi que Paul, dans Romains 14, dit que l'on ne devrait pas faire cela. Voyez au verset 13, à la fin du verset, « Veillez à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. Ne le faites pas, cela l'offensera. » De plus, il existe une autre catégorie de personnes. Certains ne peuvent pas supporter certaines choses, mais si vous le faites, ils diront, « Alors c'est permis. Ils vont les faire et devenir alcooliques, vous voyez ?» Non seulement vous allez les offenser, mais vous allez les faire tomber et les affaiblir. Donc, Paul dit de ne pas le faire, de ne pas faire tomber des gens, soit en faisant quelque chose qu'ils pensent mal, soit en faisant quelque chose qu'ils pensent alors permis pour eux, et en le faisant, ils deviennent alcooliques. Vous savez, j'ai rencontré beaucoup trop d'alcooliques. J'ai vu Jésus-Christ changer trop d'alcooliques. Je suis allé à trop de réunions d'alcooliques anonymes, assis au fond et observant ce qui se passait. J'ai vu beaucoup trop de cela pour jamais souhaiter être responsable dans ma vie d'avoir donné à qui que ce soit l'idée qu'ils peuvent continuer de boire ce qu'ils veulent, parce que je n'ai aucun contrôle sur ceux qui vont suivre mon exemple et finir dans une vie désastreuse. Mais ici, il dit, rien n'est impur en soi, verset 14. Ce n'est pas le problème, pas en soi ou de soi, mais si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, verset 15. Tu ne marches plus selon l'amour. Autrement dit, tu dis, regarde, ce que tu penses m'est égal, je vais boire si j'en ai envie, et tu ferais bien de le savoir. Là, vous n'aimez pas votre frère, car le verset 17 dit, en effet, le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Ce que vous voudrez cultiver est la justice, la paix, la joie, non la liberté de boire et de manger. Donc le verset 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Ne faites que ce qui va édifier les autres, non ce qui va les démolir. Ne faites pas ce qui les fait tomber, les affaiblit ou les offense. Pour un aliment, verset 20. Ne détruis pas l'œuvre de Dieu. En vérité, tout est pur, mais il est mal pour l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il peut être admis de boire. Il n'y a rien de mauvais dans le vin en soi s'il est dilué convenablement et ne vous prive pas de vos facultés. Mais si vous le faites, cela ne fera-t-il pas tomber quelqu'un d'autre? Ainsi, le verset 21 appelle à l'abstinence totale dans certaines situations. Il est bien de ne pas manger de viande ou de ne pas boire de vin. Ne buvez rien de tout ce qui peut être pour ton frère un obstacle, un piège ou une source de faiblesse. Vous voyez, ôtez cela. Il ne parle pas ici de n'importe quelle nourriture, mais de la viande offerte aux idoles. Donc, il dit de ne pas manger de viande offerte aux idoles et de ne pas boire de vin si cela offense quelqu'un ou le fait tomber. Vous direz, oh là là, on ne peut pas passer toute sa vie à se régler sur les autres. Mais c'est justement l'idée ici. C'est cela que Dieu veut que nous fassions. Vous savez, il y a des gens qui sont sortis d'un arrière-plan alcoolique. Et c'est une des plus merveilleuses choses au monde que Jésus les ait délivrés. C'est ce qu'ils pensent être le plus réjouissant, que Christ les a délivrés, les a sauvés, les a lavés, et qu'il a pris ce mauvais péché de l'alcoolisme et de l'ivrognerie, et qu'un chrétien arrive, comme s'il exaltait cette liberté devant eux, est très offensant, sans parler de le faire et de laisser ses enfants ou un frère plus faible le voir, et les faire tomber dans une fosse épouvantable. Épouvantable. Reposons-nous la question. Est-ce la même chose? La réponse est non. Est-ce nécessaire? La réponse est non. Est-ce le meilleur choix? La réponse est non. Est-ce addictif? Oui, ça peut l'être. Est-ce potentiellement destructeur? Oh oui. Est-ce offensant pour d'autres chrétiens? C'est très souvent le cas. Il peut y avoir certains endroits du monde où ça ne l'est pas. Mais dans une société post-prohibitionniste telle que la nôtre, le christianisme a toujours été associé à l'abstinence. Et certainement, bien des gens sont offensés parce qu'ils le considèrent comme faisant partie de leur ancienne vie. Que je vous pose encore deux questions rapidement. Cela fera-t-il du tort à mon témoignage chrétien? Certains disent, « Oh, vous savez, si je bois, je peux contacter des gens. Si je fais ce qu'ils font, ils m'accepteront. Cela est-il vraiment notre témoignage ou au contraire, va-t-il lui être néfaste? » Eh bien, dans Romains 14, au verset 16, il est dit, « Que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie. Il est très possible que vous puissiez être un bon type avec un bon ministère, mais si vous pratiquez votre liberté pour boire en offensant d'autres personnes, celles-ci vont mépriser votre témoignage et vous baisserez dans leur estime. Je sais que c'est un fait. Si je montais en chair et que je vous dise « Maintenant, je veux que vous sachiez que je bois, mais je le supporte », certains d'entre vous seraient bouche bée. Certains attraperaient leur bonne vieille Bible et ils courraient dans tous les coins en disant « John MacArthur boit » et chaque fois que je reviendrai parler, vous vous en souviendrez. Il boit, il boit. Je me demande s'il a l'esprit vraiment clair. Vous voyez, cela gênerait bon nombre d'entre nous, et d'autres ne s'en inquiéteraient pas du tout, mais certains seraient perturbés. Ainsi, ne serait-il que pour cette raison, je veux que personne ne soit troublé ou gêné, et je ne veux d'aucune manière affaiblir mon témoignage en faisant quelque chose. Donc je me pose la question, si je fais cela, est-ce que les autres auront une bonne opinion de moi en tant que chrétien? Je sais que dans le cadre de l'Église, dans les milieux chrétiens, bien des gens auraient une piètre opinion de moi si je buvais. Donc, je ne veux pas les offenser. Mais qu'en est-il du monde des perdus? Regardez dans 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, verset 31. C'est très intéressant. 1 Corinthiens 10, verset 31 dit que, je le cite, « Que vous mangiez ou buviez, que vous mangiez de la viande offerte aux idoles, ou que vous buviez du vin, ou quoi que vous fassiez, faites-le tout pour la gloire de Dieu. » Or, comment le ferez-vous à la gloire de Dieu? Verset 32. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Donc, Je ne veux pas faire ce qui serait un scandale pour l'Église. Je ne veux pas user d'une liberté qui va offenser tout un groupe de chrétiens et les faire déprécier mon témoignage, comme je ne veux pas offenser les Juifs ou les Grecs. Et la suite. Je m'efforce en tout de plaire à tous, recherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Qu'il soit sauvé. Vous savez ce que Paul dit réellement ici ? Si vous voulez atteindre ceux qui ne sont pas sauvés, cessez de boire et cessez de manger la nourriture offerte aux idoles. Qu'ils puissent voir une différence. Vous saisissez ? Qu'ils voient une différence. Je ne cherche pas à faire ce qui me plaît. Je peux avoir la liberté de faire une telle chose, mais j'ai des règles. 1. Glorifier Dieu. 2. N'offenser absolument personne. 3. M'assurer que je fais une différence de manière que les gens puissent être sauvés, qu'ils puissent voir la différence. Et pour finir, si vous avez suivi les 7 premiers points, voici le 8e point. Demandez-vous ceci. Êtes-vous absolument sûr que c'est bien de boire ? Je veux dire, absolument sûr. Parce que si vous avez la moindre conviction à ce propos, il vous faut traiter ce point. Quelqu'un est venu me voir la semaine dernière en disant « Vous savez, m'a-t-il dit, je bois de la bière avec les garçons. » Puis il a dit « Est-ce mal ?» J'ai dit « Ça vous plaît d'être tracassé ?»« Non, je n'aime pas être tracassé. » J'ai dit « Vous savez comment ne plus être tracassé ?»« Oui, ne pas le faire. » Et oui, il a dit « Je ne pense pas que c'est mal, mais ça me tracasse. » Vous savez quoi ? Romains 14, verset 23 est un verset qui aide beaucoup dans ce domaine. Et je n'ai pas le temps d'entrer dans des détails d'exégèse là-dessus, mais juste pour vous donner une idée. Il dit « Celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. » Alors voilà tout le tableau, n'est-ce pas ? Prenons-le du point de vue de celui qui boit. Il arrive un homme qui sort d'une religion païenne. Il déclare fortement que c'est mal de boire du vin, que ça fait partie des religions païennes. Je ne vais pas en toucher une goutte. Mais un frère libéré dit « Allez, viens, Charlie, ne t'accroche pas à ça, mon ami. Nous sommes libres en Christ. Allons, viens boire. » Mais il boit en doutant. Alors il s'ensuit qu'il est déjà esclave de son légalisme, qu'il est déjà une sorte de frère plus faible. Déjà, il ne peut pas jouir de sa liberté. Donc là, on le force en plus à faire quelque chose contre sa conscience. Et tout ce qu'on va arriver à faire, c'est de l'enfoncer dans le doute, l'enfoncer plus profondément dans la condamnation, plus profondément dans la remise en question de sa liberté d'agir. Et, parce qu'il ne l'a pas fait en croyant qu'il était libre pour cela, c'est devenu un péché pour lui. Parce que, si vous ne pouvez pas faire quelque chose en toute bonne conscience, croyant de tout votre cœur que c'est bien, ne le faites pas. Sinon, cela ne fera que vous enfoncer dans la condamnation. Et là, je vais ajouter autre chose. Lorsque vous violez votre conscience, vous faites du mal. Car plus vous violez votre conscience, plus vous l'endurcissez au fer rouge. Et si vous continuez à épaissir le tissu cicatriciel, quand Dieu voudra vraiment vous taper sur l'épaule sur un sujet sensible, vous ne sentirez plus rien. La conscience est l'instrument par lequel Dieu vous convainc. Et si vous violez votre conscience répétitivement, qu'arrivera-t-il quand vous en aurez besoin ? Elle ne sera plus là. Donc, il y a quelques règles à suivre et vous devez faire un contrôle sur vous-même. Repassez ces questions et vous les posez, comme je me les pose à moi-même. Est-ce la même chose ? Est-ce nécessaire ? Est-ce le meilleur ? Est-ce addictif ? Est-ce potentiellement destructeur ? Est-ce scandaleux pour d'autres chrétiens ? Cela vaut-il d'affecter négativement mon témoignage ? Suis-je absolument sûr que c'est bien ? Puis-je le faire en croyant absolument par la foi en Dieu que c'est bien ? Eh, mes bien-aimés, tout cela n'est qu'une dimension d'une marche prudente, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. Si vous voulez marcher comme un chrétien sage, c'est une manière de tracer votre chemin. Vous devez vous occuper de ce problème. Prions. Père, nous te remercions pour ce temps où tu nous as donné l'occasion de discuter et partager ce sujet si important. Seigneur, nous ne voudrions pas être légalistes, ni manquer d'amour, ni simplement adapter une situation culturelle, mais nous voulons simplement suivre ta vérité et ta parole. Aide-nous à mettre toutes les pièces ensemble et à prendre une décision sage. Au nom de Jésus, amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.